Il n'y avait guère de ville en Europe où l'aspiration à la culture fut plus passionnée qu'à Vienne. C'est justement parce que depuis des siècles, la monarchie, l'Autriche, n'avait plus fait valoir d'ambition politique ni connu de succès particulier dans ses entreprises militaires, que l'orgueil patriotique s'y était le plus fortement reporté sur le désir de conquérir la suprématie artistique. L'empire des Habsbourg, qui avait dominé l'Europe, avait vu depuis longtemps se détacher de lui ses provinces les plus importantes et les plus prospères, allemandes et italiennes, flamandes et wallonnes. La capitale était restée intacte dans son ancienne splendeur, asile de la cour, conservatrice d'une tradition millénaire. Les Romains avaient posé les premières pierres de cette cité en érigeant un castrum, poste avancé destiné à protéger la civilisation latine contre les barbares, et plus de 1000 ans après, l'assaut des Ottomans contre l'Occident s'était brisé sur ses murailles. Ici étaient venus les Nibelungen. Ici avait resplendi sur le monde l'immortelle Pléiade de la musique. Gluck, Haydn et Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms et Johann Strauss. Ici ont conflué tous les courants de la culture européenne. À la cour, dans l'aristocratie, dans le peuple, les sangs allemands, slaves, hongrois, espagnols, italiens, français, flamands s'étaient mêlés. Et ce fut le génie propre de cette ville de la musique que de fondre harmonieusement tous ces contrastes en une réalité nouvelle et singulière, l'esprit autrichien, l'esprit viennois. Accueillante et douée d'un sens particulier de la réceptivité, cette cité attira à elle les forces les plus disparates. Elle les détendit, les assouplit, les apaisa. La vie était douce, dans cette atmosphère de conciliation spirituelle, et à son insu, chaque citoyen de cette ville recevait d'elle une éducation qui transcendait les limites nationales, une éducation cosmopolite, une éducation de citoyen du monde. Cet art de l'assimilation, des transitions insensibles et musicales, se manifestait déjà dans la structure extérieure de la ville. S'étant agrandie lentement au cours des siècles et développée organiquement à partir de sa première enceinte centrale, elle était assez populeuse, avec ses 2 millions d'habitants, pour offrir tout le luxe et toute la diversité d'une métropole, sans cependant qu'une extension démesurée la séparât de la nature, comme Londres ou New York. Les dernières maisons de la ville se miraient dans le cours puissant du Danube, ou prenaient vue sur la grande plaine, ou se perdaient dans des jardins et des champs, ou s'étageaient sur les flancs de 12 collines, dernier contrefort des Alpes, couverts de vertes forêts. On percevait à peine où commençait la nature, où commençait la ville. L'une se fondait dans l'autre, sans résistance ni contradiction.